Conte de l'Alhambra, Histoire des trois belles princesses. Il était une fois un roi de Grenade qui avait pour nom Mahomet et que ses sujets surnommèrent El Haïgari, c'est-à-dire le gaucher. Les uns disent que ce sobriquet lui avait été donné parce qu'il était plus adroit de la main gauche que de la main droite. Mais d'autres prétendent qu'on le désignait ainsi parce qu'il prenait en général les choses de travers. En un mot, qu'il gâtait toutes les affaires dont il se mêlait. Ce qu'il y a de certain, c'est que, soit maladresse, soit malheur, sa vie était continuellement troublée. Il fut chassé 3 fois de ses états et obligé dans l'une de ces occasions de s'enfuir en Afrique, déguisé en pêcheur. Toutefois, sa bravoure égalait son étourderie malencontreuse et il sut toujours regagner son trône en combattant. Ainsi donc, au lieu de profiter des leçons de l'adversité pour devenir sage, il ne fit que se roidir contre elle et se confier de plus en plus dans la force de son bras gauche. Les maux qu'il attira sur son peuple et sur lui-même par ce caractère sont consignés dans les annales arabes de Grenade. Mais l'histoire présente ne traite que de son gouvernement domestique. Un jour que ce Mahomet se promenait à cheval, suivi de sa cour, au pied de la montagne d'Elvira, il rencontra une troupe de cavaliers qui revenait d'une excursion sur le territoire chrétien. Ils conduisaient une longue file de mules chargées de dépouilles et un grand nombre de prisonniers des deux sexes, parmi lesquels le roi distingua une belle fille richement parée, qui fondait en larmes sur son petit palefroid et ne paraissait pas écouter les consolantes paroles que lui adressait une duègne. Le monarque, frappé de sa beauté, demanda au capitaine de la troupe qui elle était, et cet homme lui dit qu'elle était fille du gouverneur d'une forteresse de la frontière, qu'ils avaient surprise et saccagée. Mahomet désigna cette captive comme sa part du butin et la fit conduire dans son harem de l'Alhambra. Là, tout fut employé pour dissiper sa tristesse, et le roi, toujours plus amoureux, voulut enfin partager le trône avec elle et lui offrir sa main. La belle Espagnole repoussa d'abord ses vœux. C'était un infidèle, un ennemi de son pays, et qui pisait un vieillard. Le monarque, voyant que ses soins n'avaient aucun succès, se décida à mettre dans ses intérêts la duègne qui avait été prise avec la belle dame. Cette femme était andalouse de naissance, mais son nom chrétien est inconnu, car elle n'est citée dans les légendes arabes que sous le nom de la discrète Khadige, appellation qui lui convenait parfaitement, comme le prouve toute son histoire. Le roi mort n'eut pas plutôt tenu avec cette bonne duègne une conférence secrète que, persuadée par la force des arguments qu'il employa, elle embrassa vivement sa cause auprès de sa jeune maîtresse. « Eh, madame, lui dit-elle, pourquoi ces pleurs, cette tristesse? Ne vaut-il pas mieux être maîtresse de ce beau palais que de rester confinée dans la forteresse de votre père? À l'égard de la fausse croyance de ce Mahomet, cela ne fait rien à l'affaire. Ce n'est pas sa religion que vous épousez. Et s'il est un peu avancé en âge, vous en serez plutôt veuve et libre de disposer de vous-même. Enfin, vous êtes en son pouvoir, et vous ne pouvez être que reine ou esclave. Il est bien plus avantageux de vendre des marchandises à bel et bon prix que de se les voir enlever de vive force. » Les raisonnements de la discrète Khadige étaient sans réplique. La dame espagnole sécha ses larmes, devint l'épouse de Mahomet le gaucher, et même se conforma en apparence à la foi de son royal époux. La duègne se convertit également, prit le nom arabe de Khadige, et il lui fut permis de rester auprès de sa maîtresse, qui eut toujours en elle la plus haute confiance. Au bout du temps prescrit, le roi mort devint l'heureux père de trois belles princesses qui naquirent le même jour. Il aurait préféré des fils, mais il se consola en songeant que, pour un homme d'un certain âge, pour un gaucher, il était encore assez glorieux d'avoir eu trois filles en une seule fois. Suivant l'usage oriental, il consulta les astrologues sur la destinée des princesses. Ils firent leurs calculs et, branlant la tête, dirent au roi « Les filles, grand prince, sont, en général, une propriété de difficile garde. Mais celles-ci exigeront toute votre surveillance quand elles deviendront nubiles. Tenez-les constamment sous votre aile paternelle dans ce temps critique et ne les confiez qu'à vous seul. » Mahomet le gaucher passait pour un homme d'une haute sagesse parmi ses courtisans et se regardait lui-même comme tel. La prédiction des astrologues l'inquiéta fort peu, car il comptait fermement sur sa prudence et sa vigilance pour garder ses filles et donner un éclatant démenti au destin. Cette triple naissance fut le dernier trophée conjugal de Mahomet le gaucher. La reine ne lui donna pas d'autres enfants et mourut peu d'années après, en léguant ses filles à son amour et à la fidélité de la discrète Khadige. Il s'en fallait encore de plusieurs années que les princesses ne fussent arrivées à cette période dangereuse désignée par les astrologues, l'âge nubil. Cependant, le rusé Mahomet se dit à lui-même : « On ne saurait user de trop de précautions. Il est bon surtout de les prendre à temps. » Il se détermina en conséquence à faire élever ses filles dans le château royal de Salobreña, palais magnifique, mais comme enchâssé au milieu d'une forteresse bâtie sur le sommet d'une colline qui domine les côtes de la Méditerranée. C'était là que les souverains musulmans retenaient ceux de leurs parents qui leur donnaient quelque ombrage. Ils jouissaient dans ces murs de tous les amusements que le luxe peut fournir et passaient leur vie dans une voluptueuse indolence. Les princesses habitèrent ce séjour, séparées du monde, mais entourées de jouissances et servies par des femmes esclaves qui prévenaient tous leurs désirs. Elles avaient des jardins délicieux remplis de fruits et des fleurs les plus rares et des bains parfumés. La vue du château s'étendait de trois côtés sur une riche vallée émaillée de toutes sortes de cultures et de l'autre sur la vaste mer. Dans cette belle demeure, sous un ciel si pur, dans un climat si prospère, les trois princesses croissaient et embellissaient rapidement. Leur beauté devenait tous les jours plus éclatante, et bien qu'elles fussent toutes trois élevées de la même manière, chacune d'elles annonçait un caractère différent. Leurs noms étaient Zaïde, Zoraïde et Zoraïdé. Zaïde, l'aînée, car il existait en elle un ordre de primogéniture, puisqu'il s'était écoulé 3 minutes entre chacune de leurs naissances respectives. Zaïde, l'aînée, était vive, décidée et prenait le pas sur ses sœurs en toute occasion, comme elle l'avait fait à son entrée dans le monde. Son esprit était avide d'objets nouveaux et voulait toujours connaître le fond des choses. Zoraïde était éminemment douée du sentiment de la beauté, et c'était là, sans doute, ce qui lui faisait trouver tant de plaisir à contempler son image dans les miroirs ou les fontaines, ce qui lui inspirait un goût si vif pour les fleurs, les bijoux et les autres objets de toilette. Quant à Zoraïde, la cadette, elle était douce, timide et très sensible. Sa tendresse surabondante se manifestait par le grand nombre de fleurs favorites, d'oiseaux favoris, d'animaux favoris, qu'elle soignait avec un dévouement extrême. Tous ses amusements étaient d'une nature paisible, et son caractère la disposait à la rêverie. Souvent, elle passait des heures entières sur un balcon, les yeux fixés sur le ciel étoilé d'une belle nuit ou sur les flots de la mer éclairés par les rayons de la lune. En de tels moments, le chant lointain d'un pêcheur dans la baie ou les sons d'une flûte mauresque qui s'élevait d'une barque qu'elle voyait glisser sur les vagues la jetaient dans une sorte d'extase. Mais le choc des éléments en fureur remplissait son âme de crainte, et un coup de tonnerre suffisait pour lui faire perdre connaissance. Les années de l'enfance s'écoulaient ainsi, pour les princesses, dans le calme et la sérénité. La discrète Khadige, fidèle à sa charge, les surveillait avec les soins les plus constants. Nous avons déjà dit que le château de Salobreña dominait la côte. Une de ses murailles extérieures suivait le revers de la colline jusqu'à un rocher qui se projetait sur la mer. Au pied de ce rocher se trouvait une grève sablonneuse, couverte par les vagues bouillonnantes. Une petite tour d'observation, bâtie sur ce promontoire, avait été arrangé en pavillon, avec des fenêtres à jalousie qui laissaient pénétrer le vent de la mer. C'était là que les princesses avaient coutume de passer les heures brûlantes de la journée. La curieuse Zaïde était un jour assise à l'une des fenêtres du pavillon, tandis que ses sœurs faisaient la sieste sur des ottomanes. Une galère qui côtoyait le rivage, attira son attention. Elle vit qu'elle était pleine de gens armés. Ce bâtiment jeta l'ancre au pied de la tour et quelques soldats morts, conduisant des prisonniers chrétiens, débarquèrent sur la grève. La curieuse Zaïde éveilla ses sœurs et toutes trois regardèrent timidement à travers les jalousies qui les dérobaient à la vue. Parmi les prisonniers se trouvaient trois chevaliers espagnols, richement équipés. Ils étaient jeunes, bien faits, et la dignité de leur manière, bien qu'ils fussent chargés de chaînes et entourés d'ennemis, annonçait l'élévation de leur âme. Les princesses les considéraient avec un intérêt profond, osant à peine respirer. Renfermées comme elles l'étaient depuis l'enfance, au milieu de leurs femmes, n'ayant jamais vu d'autres hommes que des esclaves noirs et les grossiers pêcheurs de la côte, il n'est pas surprenant que l'aspect de ces brillants chevaliers, dans tout l'orgueil de la jeunesse et d'une mâle beauté, ait éveillé quelque émotion dans leur sein. « Avez-vous jamais contemplé une plus noble créature que le chevalier à l'écharpe rouge ?» disait l'aînée des sœurs, la belle Zaïde. « Quelle fierté dans sa démarche ! On dirait que, loin d'être captif, il est entouré de ses esclaves. » « Mais voyez aussi le chevalier en écharpe verte !» disait à son tour Zoraïde. « Quelle grâce, quelle élégance, Quelle vivacité !» La douce Zoraïdé ne disait rien, mais elle préférait en secret le troisième cavalier. Les princesses suivirent de l'œil les prisonniers tant qu'il leur fut possible de les apercevoir. Alors elles s'éloignèrent de la fenêtre en poussant de profonds soupirs, se regardèrent les unes les autres pendant un moment, puis se jetèrent toutes pensives sur leurs ottomanes. La discrète Khadige les trouva en cet état. Et lorsqu'elles lui contèrent ce qu'elles avaient vu, le cœur de la duègne fut touché, malgré les glaces de l'âge. « Pauvres jeunes gens, s'écria-t-elle, leur captivité fera sans doute verser bien des larmes à plus d'une belle et noble dame. Ah, mes enfants, vous ne savez pas tout ce qu'ils ont à regretter dans leur pays. Les brillants tournois, les carousels, les sérénades, la galanterie. » Ce peu de mots suffisait pour exciter la curiosité de Zaïd. Elle devint intarissable dans ses questions et finit par obtenir de la duègne une peinture exacte des scènes qu'elle avait vues dans ses beaux jours. La belle Zoraïde se détourna pour se regarder furtivement dans un miroir quand la bonne vieille parla de la beauté des dames espagnoles. Et la tendre Zoraïde étouffa un soupir au récit des sérénades. Chaque jour, la curieuse Zaïde renouvelait ses questions. Et chaque jour, la duègne répétait ses histoires que les jeunes personnes écoutaient avec un intérêt profond. Tout à coup, la discrète Khadige sentit le mal que pouvait faire de tels récits. Jusqu'alors, elle avait regardé les princesses comme des enfants. Mais le temps avait insensiblement développé leur charme, et maintenant, c'étaient trois belles filles à marier qu'elle avait sous les yeux. « Il est urgent, pensa la vieille femme, que le roi sache où nous en sommes. Je vais sans plus tarder lui envoyer un message. » Mahomet le gaucher reposait sur un divan dans une des salles les plus fraîches de l'Alhambra quand le messager de Salobreña fut introduit en sa présence et le complimenta de la part de la sage Khadige sur l'anniversaire de la naissance de ses filles. Ce messager lui remit en même temps une corbeille ornée de fleurs, dans laquelle on voyait sur des feuilles de vigne et de figuier une pêche, un abricot et un brugnon, vivement colorés par le soleil et couverts du léger duvet qui marque le point de maturité le plus attrayant. Le monarque, versé dans le langage oriental des fruits et des fleurs, comprit facilement le sens de cet envoi emblématique. Ainsi, la période critique désignée par les astrologues est arrivée, dit le roi. Voilà mes filles nubiles, qu'allons-nous faire? Elles sont enfermées loin des regards des hommes, sous la garde de la discrète Khadige. Tout cela est bien, très bien, mais elles ne sont pas sous mes yeux, comme les sages me l'avaient prescrit. Il faut donc que je les prenne sous mes ailes, que je ne les confie qu'à moi seule. Ce sont leurs propres paroles, je dois leur obéir. Il fit préparer une des tours de l'Alhambra pour recevoir les princesses et partit à la tête d'un détachement de ses gardes pour la forteresse de Salobreña afin de conduire lui-même ses filles sous le toit paternel. Il y avait plus de 3 ans que le roi n'avait vu les princesses, et son étonnement fut grand lorsqu'il vit le changement que ce court intervalle avait produit dans leurs personnes. Pendant ce laps de temps, elles avaient franchi la ligne qui sépare la petite fille étourdie, ignorante, irréfléchie, de la jeune fille qui sait penser et rougir. Ce passage d'un âge à l'autre offre une transition aussi brusque que celle dont le voyageur est frappé quand il quitte les plaines monotones de la Manche pour entrer dans les voluptueuses vallées de l'Andalousie. Zaïde était grande, parfaitement faite. Sa démarche était fière, son œil vif et pénétrant. Elle entra dans le salon où Mahomet les attendait d'un pas majestueux et ferme, fit une profonde révérence et montra plutôt le respect qu'elle devait à son souverain que la tendresse d'une fille pour son père. Zoraïde était de moyenne taille, ses regards étaient séduisants, ses mouvements remplis de grâce. Une parure d'un goût exquis la faisait paraître encore plus piquante. Elle s'approcha du monarque en souriant, lui baisa la main et lui récita des stances d'un auteur qu'elle savait qu'il aimait. Zoraïde était plus petite que ses sœurs, et sa beauté avait ce caractère de frêle délicatesse qui semble implorer l'appui, la protection de la tendresse. Elle ne paraissait faite ni pour commander comme Zaïde, ni pour éblouir comme Zoraïde, mais pour s'insinuer doucement dans le cœur de l'homme de son choix, s'y réfugier comme dans un sûr asile, y trouver le bonheur de sa vie. Elle s'avança toute tremblante et se préparait à baiser la main du roi. Mais, en levant ses yeux timides sur le visage de ce vieillard, elle y vit une expression de bonté paternelle, et sa sensibilité l'emportant sur sa timidité, elle se jeta dans ses bras. Mahomet le gaucher considérait ses charmantes filles avec un sentiment mêlé d'orgueil et d'inquiétude. Car s'il était fier de leur beauté, les prédictions des astrologues lui donnait furieusement à penser. « trois filles, disait-il en lui-même, et toutes trois nubiles. Quel dragon pourra garder ses fruits plus séduisants que ceux du jardin des Hespérides ?» Il eut soin d'envoyer avant son retour à Grenade des héros qui annoncèrent la route par laquelle il devait passer, afin que toutes les portes et toutes les fenêtres fussent fermées à l'approche des princesses. Cette précaution prise, il partit, escorté par une compagnie de cavaliers noirs, revêtus d'armes brillantes, mêlés à faire peur. Les princesses marchaient à côté du roi, soigneusement enveloppées de leurs voiles. Montés sur de blancs palefrois couverts de caparaçons en velours brodés d'or et traînant jusqu'à terre. Leurs morses et leurs étriers étaient d'or, et leurs brides de soie enrichies de perles et de pierres précieuses. Ils avaient aussi de petites sonnettes d'argent qui formaient un tintement musical à mesure qu'ils avançaient d'un pas lent et mesuré. Malheur à celui qui aurait osé rester sur le chemin quand il entendait le bruit de ses sonnettes. Les gardes avaient ordre de le tuer sans miséricorde. La cavalcade n'était pas éloignée des portes de Grenade quand elle rencontra sur les bords du Xénil un convoi de prisonniers conduit par une petite troupe de soldats morts. Les soldats, qui n'avaient pas le temps de se retirer, se précipitèrent la face contre terre et enjoignirent à leurs captifs de les imiter. Or, les trois chevaliers que les princesses avaient vus de leur pavillon se trouvaient justement parmi ces prisonniers. Ils n'entendirent point ou ne voulurent pas entendre l'ordre qui leur était donné et restèrent debout, les yeux fixés sur le cortège qui approchait. Mahomet, transporté de colère à cette transgression de ses ordres, tira son cimeterre et, poussant son cheval, se préparait à porter un coup de gaucher qui eût été fatal au moins à l'un des regardants. Mais les princesses l'entourèrent en demandant grâce pour les prisonniers. La timide Zoraïdé elle-même, oubliant sa retenue accoutumée, devint éloquente pour plaider leur cause. Mahomet s'arrêta, le bras toujours levé, et le capitaine des gardes, se jetant à ses pieds, lui dit « Que votre majesté prenne garde à ce qu'elle va faire. Un tel acte causerait un scandale affreux dans le royaume. Ces captifs sont de braves et nobles chevaliers espagnols. Ils ont été pris en combattant comme des lions. Ils appartiennent à de très grandes familles qui donneront pour eux des rançons considérables. » « C'est assez, » dit le roi, persuadé par cette dernière raison. « J'épargnerai leur vie, mais je veux punir leur audace. Qu'on les emmène au Tour Vermeil et qu'on les mette aux travaux forcés. » Mahomet faisait en ce moment une de ses gaucheries accoutumées. Car les voiles des princesses étant tombées dans le tumulte, l'éclat de leur charme avait été révélé. Et le roi, en prolongeant ainsi les pourparlers, leur laissait le temps de produire leur effet. Dans ces temps anciens, l'on devenait amoureux bien plus promptement que de nos jours, comme tous les romans en font foi. Il n'est donc pas surprenant que le cœur des trois cavaliers se soit trouvé subitement pris, d'autant mieux que la reconnaissance se joignait à l'admiration pour assurer le triomphe des princesses. Mais un fait un peu plus singulier, quoique aussi certain, c'est que chacun d'eux fut épris d'une différente beauté. À l'égard des princesses, elles se sentirent plus touchées que jamais des manières nobles de leurs captifs, et conservèrent précieusement dans leur mémoire tout ce qu'elles avaient entendu dire de leur valeur et de leur haut lignage. Le cortège se remit en marche. Les trois princesses avançaient à côté de leur père, silencieuses et pensives, jetant de temps en temps un regard en arrière, pour tâcher d'apercevoir les prisonniers chrétiens que l'on conduisait au Tour Vermeil. La résidence destinée aux princesses réunissait tout ce que l'imagination la plus riche et le goût le plus délicat peuvent inventer. C'était une tour séparée du reste du palais, auquel, toutefois, elle était liée par l'enceinte crénelée qui couronne le sommet de la colline. Du côté qui donnait sur l'intérieur de la forteresse, un petit jardin, rempli de fleurs exotiques, s'étendait au pied de la tour. De l'autre côté, l'on découvrait le profond ravin qui sépare le territoire de l'Alhambra de celui du Generalife. L'intérieur de la tour était divisé en petites chambres, ornées dans le style élégant et léger des Arabes, et entourant une vaste salle dont le plafond en voûte s'élevait presque au sommet de la tour. Les ornements de cette salle magnifique étaient éblouissants d'or et de riches couleurs. Une fontaine d'albâtre, entourée d'arbustes à fleurs odoriférantes, lançait un jet d'eau cristalline qui rafraîchissait toute la pièce et berçait doucement par le bruit de sa chute. Des cages d'or et d'argent, qui contenaient des oiseaux chantants du plus beau plumage, était suspendu tout autour de la salle. On avait dit au roi, quand les princesses demeuraient à Salobreña, qu'elles étaient toujours gaies et disposées à s'amuser de tout. Ils s'attendaient donc à les voir enchantées de leur nouveau séjour. Cependant, à sa grande surprise, il observait qu'elles s'attristaient tous les jours davantage, et ne se montrait satisfaite d'aucun des objets qui les entouraient. L'odeur des fleurs leur donnait mal à la tête, le chant du rossignol troublait leur repos la nuit. La fontaine d'albâtre les impatientait avec son éternel glou-glou du matin au soir et du soir au matin. Le roi, qui n'était pas des plus endurants, allait se fâcher sérieusement. Mais il pensa que ses filles étaient arrivées à l'âge où l'esprit des femmes s'étend et forme sans cesse de nouveaux désirs. « Ce ne sont plus des enfants, se dit-il à lui-même. Ce sont des personnes faites qui ont besoin de s'occuper d'objets intéressants. » Il mit, en conséquence, tous les joailliers et les marchands d'étoffes en réquisition. Et le thakatine de grenade fut mis à contribution pour offrir des colliers, des bracelets, des bagues, des robes de soie, des châles de cachemire, enfin toutes sortes de choses précieuses aux trois sœurs. Mais ce fut peine perdue. Les princesses étaient toujours languissantes, au milieu de leurs beaux atours. C'étaient trois boutons de rose qui se penchaient sur leurs tiges. Le roi était à bout. Comme il avait une grande confiance en lui-même, il ne prenait jamais l'avis de personne. Mais, de sa vie, il ne s'était trouvé dans une perplexité semblable. « Les caprices de trois filles nubiles, se dit-il, suffiraient pour faire tourner la tête de l'homme le plus sensé. » Ainsi donc, pour la première fois, il eut recours au conseil d'autrui. La personne qu'il consulta fut la duègne expérimentée, la discrète Khadige. « Khadige, dit le roi, je vous connais pour la plus discrète des femmes, et c'est pour cela que je vous ai laissée près de la personne de mes filles, car les pères ne sauraient être trop délicats dans le choix de ceux auxquels ils accordent leur confiance par rapport à leurs enfants. Maintenant, je voudrais savoir de vous quel mal secret mine les princesses. Peut-être trouverai-je alors le moyen de leur rendre leur bonne santé et leur bonne humeur. » Khadige promit d'obéir aux ordres de son maître. Et, dans le fait, la bonne duègne en savait plus sur la maladie des princesses qu'elle n'en savait elle-même. Toutefois, elle s'enferma avec elle et tâcha de pénétrer leurs secrets. « Mes chers enfants, leur dit-elle, pourquoi cet air triste, abattu, ses yeux baissés, dans un si beau lieu, où l'on trouve tout ce que le cœur peut désirer ?» Les princesses portèrent des regards distraits tout autour de la chambre et se mirent à soupirer. « Que désirez-vous de plus? Voulez-vous que je vous achète ce merveilleux perroquet qui parle toutes les langues et fait les délices de grenade ?»« Fi donc !» s'écria la princesse Zaïde. « Un vilain oiseau criard qui ne fait que répéter des mots sans idée. Il faut n'en avoir aucune soi-même pour supporter une pareille peste. Ferais-je venir un singe du rocher de Gibraltar pour vous divertir par ses grimaces et ses gambades? Un singe? Quelle horreur! Dit Zoraïde. Je hais cette hideuse ressemblance de l'homme. Que diriez-vous du fameux chanteur noir, Kazem, venu depuis peu du harem du roi de Maroc? On dit que sa voix est aussi belle et aussi élevée que celle d'une femme. Je suis toujours effrayée à la vue de ces esclaves noirs, dit la délicate Zoraïde. D'ailleurs, j'ai tout à fait perdu le goût de la musique. Ah, mon enfant, vous ne diriez pas cela, reprit la vieille d'un air malin, si vous aviez entendu comme moi celle que faisaient hier au soir les trois chevaliers que nous avons rencontrés dans notre voyage. Mais, Dieu me pardonne, chère fille, vous voilà toute troublée. Qui peut vous faire rougir, vous agiter ainsi? Rien, rien, ma bonne, continuez, je vous prie. Eh bien, comme je passais près des tours vermeilles hier au soir, je vis les trois chevaliers qui se reposaient des travaux de leur journée. L'un d'eux jouait de la guitare, et les deux autres chantaient tour à tour, mais d'une manière si agréable que les gardes restaient immobiles à les écouter, comme s'ils eussent été changés en statues. Allah me pardonne, mais je n'ai pu m'empêcher d'être ému quand j'ai entendu ces chants de mon pays. Et qui pourrait voir des jeunes gens si beaux, si nobles, dans les chaînes de l'esclavage, sans être touché de pitié? Ici, la bonne vieille ne put retenir ses larmes. Peut-être, ma bonne mère, pourriez-vous nous procurer la vue de ces chevaliers? Dit Zaïd. Je pense, dit Zoraïde, qu'un peu de musique nous ferait grand bien. La timide Zoraïde ne dit rien, mais jeta ses bras autour du cou de la bonne vieille. Merci de moi, s'écria la discrète duègne. Que dites-vous là, mes enfants? Si votre père entendait parler d'une semblable chose, il nous ferait mourir toutes quatre. Il est vrai, ces chevaliers sont évidemment bien élevés et paraissent d'un noble caractère. Mais que nous importe? Ce sont les ennemis de votre religion, de votre pays. Vous ne devez penser à eux qu'avec horreur. La volonté féminine, surtout celle de filles à marier, est d'une admirable intrépidité. Aucun danger, aucune défense ne pourrait la détourner de son but. Les princesses entouraient la duègne, la cajolaient, l'embrassaient, la suppliaient. Enfin, elles finirent par lui déclarer qu'un refus les ferait mourir. Que pouvait-elle faire? C'était bien certainement la vieille femme la plus discrète qui exista dans le monde, comme le disait son maître, et l'une de ses plus fidèles servantes. Mais fallait-il laisser trois belles princesses mourir de chagrin pour une chanson? D'ailleurs, malgré son long séjour parmi les morts et le changement de sa foi auquel elle n'avait consenti qu'à l'exemple de sa maîtresse et pour lui rester attachée, elle était toujours espagnole et chrétienne au fond du cœur. Elle se mit donc à méditer sur les moyens de satisfaire le désir des princesses. Les captifs renfermés dans les tours vermeilles étaient confiés à la garde d'un renégat à larges épaules, à moustaches épaisses, nommé Hussein Baba. Ce renégat passait pour avoir l'oreille sensible au son de l'or. La duègne alla le trouver, le prit à part, glissant une pièce d'or dans sa main, lui dit « Hussein Baba, les trois princesses, mes maîtresses, qui sont enfermées dans cette tour, ont besoin de distraction. Elles ont entendu parler des talents des trois chevaliers espagnols et désirent en avoir un échantillon. Je suis sûr que vous avez trop bon cœur pour leur refuser cet innocent plaisir. Et ma tête sera demain grimaçante sur la porte de ma tour. Car telle serait ma récompense si le roi venait à découvrir cela. Vous ne risquez rien de semblable. L'affaire sera conduite avec le plus grand secret, et vous pouvez être assuré que votre complaisance sera convenablement payée. » Quand la bonne femme eut terminé sa harangue, elle pressa tendrement la rude main du renégat, et y laissa une autre pièce d'or. Il ne put résister à tant d'éloquence. Dès le lendemain, il fit travailler les trois chevaliers dans le ravin sur lequel donnaient les fenêtres des princesses. À midi, tandis que leurs camarades dormaient sous les arbres et que leurs gardiens paraissaient assoupis, ils s'assirent sur le gazon au pied de la tour et chantèrent une ronde espagnole en s'accompagnant de la guitare. Le ravin était profond, la tour élevée. Cependant, leur voix se distinguait parfaitement dans le calme de midi. Les princesses écoutaient de leur balcon. La duègne leur avait enseigné la langue espagnole et les tendres paroles de la chanson firent battre leur cœur. La discrète Khadige, au contraire, en fut extrêmement scandalisée. « Allah nous protège, dit-elle, c'est une chanson d'amour qu'ils osent chanter, et une chanson d'amour qui s'adresse à vous. Quelle audace inouïe! Je vais parler à leur gardien et leur faire donner la bastonnade. » « La bastonnade à ces gentils chevaliers, et pour avoir chanté si délicieusement ?» Les trois belles princesses étaient saisies d'horreur à cette seule idée. Malgré sa vertueuse indignation, la bonne vieille femme, très pitoyable de sa nature, s'apaisa facilement. De plus, elle voyait clairement que la musique avait produit un bon effet sur ses jeunes maîtresses. Les roses avaient déjà reparu sur leurs joues, et leurs yeux étaient plus brillants qu'ils ne l'avaient jamais été. Elle ne fit donc plus aucune réflexion sur la chanson des chevaliers. Quand elle fut achevée, Zoraïde prit un luth et chanta à son tour d'une voix douce, quoique basse et tremblante, une petite chanson arabe, dont voici le sens. La rose se cache dans son feuillage, mais elle écoute avec délice le chant du rossignol. Depuis ce moment, les chevaliers travaillèrent tous les jours dans le ravin, et le prudent Hussein devint tous les jours plus indulgent, plus enclin à s'endormir. Pendant quelque temps, les jeunes chevaliers et les belles princesses entretinrent une vague correspondance au moyen de chansons et de romances populaires, qui se répondaient en quelque sorte les unes aux autres, et par lesquelles ils exprimaient leurs sentiments. Ils se servaient aussi du langage des fleurs, qui leur était familier. Les jeunes filles se hasardèrent même à paraître à leur balcon, lorsqu'elles étaient sûres de ne pouvoir être aperçues par les gardes. Les difficultés de ce commerce en augmentaient l'attrait et renforçaient la passion qui s'était allumée d'une manière si singulière. Car l'amour se plaît à vaincre des obstacles et prospère d'autant plus que le sol sur lequel il croit est plus léger. Cependant, le changement que ce commerce secret produisait sur le visage et dans l'humeur des princesses surprit et charma encore plus le roi gaucher. Mais personne ne sentait plus de joie à ce sujet que la discrète Khadige, qui regardait cet heureux résultat comme entièrement dû à sa prudence. Enfin, cette correspondance télégraphique fut tout à coup interrompue. Plusieurs jours se passèrent sans que les chevaliers parussent dans le ravin. Les trois belles princesses regardaient en vain du haut de la tour. En vain elles tendaient en dehors du balcon leurs coups de cygne. En vain elles chantaient comme des pauvres rossignols en cage. Leurs amants chrétiens ne se montraient d'aucun côté. Aucune tendre chanson ne répondait à leurs accents du milieu des bosquets. La discrète Khadige sortit pour prendre des informations et rentra peu de temps après, le visage plein de troubles. « Ah, mes enfants, s'écria-t-elle, je savais bien où tout cela nous menait, mais vous avez voulu en faire à votre tête. Maintenant, vous pouvez suspendre vos luttes aux branches des saules pleureurs. » Note, allusion à l'usage populaire en Angleterre, d'envoyer une branche de saule aux jeunes filles que leurs amants ont abandonnées. Fin de la note. La rançon des chevaliers a été envoyée et ils sont partis pour Grenade, d'où ils se préparent à retourner dans leur pays. Ces nouvelles jetèrent le désespoir dans le cœur des trois belles princesses. La fière Zaïde frémissait d'indignation à l'idée qu'on l'avait ainsi abandonnée sans un seul mot d'adieu. Zoraïde se tordait les mains, pleurait, se regardait dans la glace, essuyait ses larmes et en répandait aussitôt de nouvelles. La douce Zoraïdé, appuyée sur le balcon, pleurait en silence, et ses larmes arrosaient les fleurs et le gazon du banc sur lequel leur chevalier sans foi s'était si souvent assis. La discrète Khadige employait tous ses efforts pour les consoler. « Prenez courage, mes enfants, disait-elle. Ces petits malheurs ne vous paraîtront rien quand vous y serez accoutumés. Le monde est ainsi fait. Ah, quand vous aurez mon âge, vous saurez quelle confiance on doit accorder aux hommes. Je gagerai ma tête que ces cavaliers ont leurs amours parmi les beautés de Cordoue et de Séville, et seront bientôt sous leurs balcons à chanter et à jouer de la guitare, sans songer aux belles de l'Alhambra. Ainsi donc, prenez courage, mes enfants, et bannissez de vos cœurs ces ingrats. » Les consolants discours de la discrète Khadige ne servirent qu'à redoubler le chagrin des princesses, qui restèrent inconsolables pendant 2 jours. Le matin du 3e, la bonne vieille femme entra dans leur appartement, bouillante de colère. Qui eût jamais pensé qu'un mortel poussât l'insolence jusqu'à ce point ? S'écria-t-elle aussitôt que son indignation furieuse lui permit de trouver des paroles pour l'exprimer. « Mais je n'ai que ce que je mérite pour avoir contribué à tromper votre digne père. Ne venez plus me parler de vos chevaliers espagnols. »« Qu'est-il arrivé, bonne Khadige ? » s'écrièrent les princesses dans une profonde anxiété. « Ce qui est arrivé, une trahison épouvantable. » Ou, ce qui est presque aussi coupable, une trahison a été proposée, et proposée à moi, la plus fidèle des sujettes, la plus sûre des duègnes. Oui, mes enfants, les cavaliers espagnols ont osé tenter ma vertu. Ils comptaient sur moi pour vous engager à fuir avec eux à Cordoue et à devenir leur femme. En achevant ces mots, l'excellente femme couvrit son visage de ses mains et donna un libre cours à sa douleur et à son indignation. Les 3 belles princesses pâlissaient et rougissaient tour à tour, et se lançaient des regards significatifs, mais elles gardaient le silence. Cependant, la vieille femme s'agitait dans son fauteuil, en donnant les marques du plus violent chagrin, et s'écriait « Faut-il avoir vécu jusqu'à ce jour pour se voir insulter ainsi, moi, la plus fidèle des servantes ?» Enfin, l'aînée des sœurs, celle qui avait le plus de résolution et qui conduisait toujours les autres, s'approcha de la duègne, lui mit la main sur l'épaule et lui dit « Supposons, ma bonne mère, que nous consentions à suivre ces chevaliers chrétiens. La chose est-elle possible ?» La bonne femme se calma subitement et, levant la tête, répéta « Possible ? Oui, sans doute, très possible. Les chevaliers n'ont-ils pas déjà gagné Hussein Baba, le capitaine des gardes renégats, et arrangé avec lui tout le plan ? Mais trompez votre père qui a mis toute sa confiance en moi. » Ici, la vieille recommença à pleurer et à se tordre les mains. « Mais notre père, dit l'aîné des princesses, n'a jamais placé sa confiance en nous. Il ne s'est fié qu'aux verrous et aux grilles, et nous a traités comme des captives. » « C'est assez vrai, répliqua la vieille femme en essuyant ses larmes. Il vous a traités en effet très injustement, en vous forçant à passer votre belle jeunesse abandonnée dans cette vieille tour, comme des roses que l'on laisse se faner dans un pot à fleurs. Mais fuir votre pays, ne sera-ce pas pour aller dans le pays de notre mère, où nous vivrons en liberté, où nous aurons chacune un aimable et jeune mari, au lieu d'un père vieux et maussade ? Tout cela est encore vrai, et j'avoue que votre père est un peu tyrannique. Mais hélas, continua-t-elle en recommençant à sangloter, auriez-vous le courage de me laisser ici ? moi qui vous ai vu naître, exposé à porter tout le poids de sa colère ? Dieu nous en préserve, ma bonne Khadige, mais ne pourriez-vous pas fuir avec nous ?
Assurément, ma fille, et pour vous dire la vérité, quand j'ai traité l'affaire avec Hussein Baba, il m'a promis de prendre soin de moi si je vous accompagnais dans votre fuite. Mais consultez-vous bien, mes enfants, faites toutes vos réflexions. Êtes-vous disposés à renoncer à la foi de vos pères ?
La foi chrétienne a été celle de notre mère, dit Saïd. Je suis prête à l'embrasser. Et je pense que mes sœurs sont dans les mêmes dispositions.
Dieu soit loué ! S'écria la bonne vieille, rayonnante de joie.
Oui, c'était la religion dans laquelle votre mère avait été élevée. Et sur son lit de mort, elle s'est repentie amèrement de l'avoir abandonnée.
Je lui ai promis alors de prendre soin de vos âmes, et je me réjouis maintenant de les voir sur les chemins du salut. Et moi aussi, mes enfants, je suis née chrétienne, je suis restée attachée à ma foi et suis résolue à y retourner.
Hussein Baba, qui est lui-même chrétien de naissance, est natif d'un village voisin de ma ville natale. Désire également revoir sa patrie et se réconcilier avec l'Église. Et les chevaliers espagnols ont promis, dans le cas où nous deviendrions mari et femme, de nous donner un établissement convenable.
En un mot, il paraissait que la plus discrète et la plus prudente des vieilles femmes s'était entendue avec les chevaliers pour concerter le plan de la fuite des princesses.
L'aînée consentit immédiatement à suivre ce plan, et son exemple, comme de coutume, détermina la conduite de ses sœurs. Il est vrai que la plus jeune hésitait. Son âme douce et timide reculait devant une démarche si hardie. Et la tendresse filiale luttait avec l'amour dans son cœur. Cependant, le dernier l'emporta. Suivant l'usage. Et Zoraïdé, les yeux en pleurs, le sein oppressé, se prépara en silence à s'enfuir avec son amant. La colline escarpée sur laquelle est construit l'Alhambra est percée de passages souterrains creusés dans le roc qui conduisent de la forteresse à diverses parties de la ville. Et à des ouvertures encore plus éloignées sur les bords du Darro et du Xénil. Les rois maures avaient fait construire ces souterrains comme moyen d'échapper en cas d'insurrection soudaine ou de sortir secrètement pour des entreprises privées. Plusieurs sont entièrement perdus et d'autres existent encore à moitié comblés par les éboulements à moitié muré. C'est par l'un de ces passages que le renégat devait conduire les princesses à une porte au-delà des murs de la ville où les chevaliers les attendaient avec des chevaux pour les porter à la frontière. La nuit fixée pour le départ arriva. La tour des princesses avait été fermée comme de coutume et tout dormait dans l'Alhambra. Vers minuit, la discrète Khadige prêta l'oreille au balcon d'une fenêtre qui donnait sur le jardin. Hussein Baba était déjà au-dessous et lui donna le signal convenu. Alors la duègne attacha au balcon une échelle de corde, la fit tomber dans le jardin et descendit. Les deux princesses aînées la suivirent, le cœur palpitant. Mais, quand ce fut le tour de la plus jeune, elle hésita et trembla. Plusieurs fois, elle posa son petit pied sur l'échelle et le retira autant de fois. Cependant, plus elle attendait, plus sa frayeur redoublait. Elle jeta un triste regard sur la petite chambre où elle avait si longtemps vécu, comme l'oiseau en cage, il est vrai, mais en sûreté. Quel danger n'allait-elle pas affronter en se lançant ainsi dans l'immensité du monde ? Elle pensait à son aimable et brave Espagnol et son pied se plaçait à l'instant sur l'échelle. Elle pensait à son vieux père et le retirait. Il est impossible de décrire le conflit de sentiments qui agitait le sein de cette tendre fille, si timide et si ignorante des choses de la vie. En vain ses sœurs suppliaient, la duègne grondait, le renégat jurait sous le balcon. La jolie petite princesse restait, vacillante sur le bord du précipice, tentée par la douceur du péché, mais terrifiée à l'idée de ses périls. Chaque moment augmentait le danger de leur situation. Un bruit de chevaux se fit entendre au loin. « Les patrouilles font leur ronde, » dit Hussein Baba. « Si nous tardons une minute, nous sommes perdus. Descendez, princesse, où nous vous laissons ?» Zoraïdé fut un instant dans la plus terrible agitation. Enfin, prenant une résolution désespérée, elle détacha l'échelle et la jeta dans le jardin. « Tout est fini, » dit-elle. « Maintenant la fuite m'est impossible. Allah vous conduise et vous bénisse, chère sœur. » Les deux princesses avaient le cœur déchiré. Elles ne pouvaient se résoudre à laisser leur sœur et voulaient rester. Mais la patrouille avançait et le renégat furieux les entraîna dans le passage souterrain. Elles traversèrent, presque en rampant, un labyrinthe creusé dans le centre de la montagne et parvinrent sans encombre à une porte qui donnait en dehors des murs de la ville. Les chevaliers espagnols les attendaient, déguisés en soldats de la garde que commandait le renégat. L'amant de Zoraïdé tomba dans le plus violent désespoir quand il apprit qu'elle avait refusé de sortir de la tour. Mais ce n'était pas le moment de se lamenter. Les amants firent remonter les princesses sur la croupe de leurs chevaux, la discrète Khadige se plaça derrière le renégat, et tous s'acheminèrent au galop, dans la direction du pas de Lopé, qui traverse les montagnes du côté de Cordoue. Ils n'avaient pas fait 100 pas qu'ils entendirent les tambours et les trompettes de l'Alhambra. « Nous sommes découverts, » dit Hussein. « Nous avons de bons chevaux, la nuit est sombre, nous pouvons échapper à leur poursuite, » répliquèrent les chevaliers. Ils piquèrent des deux, traversèrent la Vega avec la rapidité de l'éclair et atteignirent le pied de la montagne d'Elvire qui s'avance comme un promontoire dans la plaine. Le renégat s'arrêta pour écouter. « Maintenant, dit-il, personne ne suit nos traces. Nous pouvons passer sans obstacle les postes de la montagne. » Mais, tandis qu'il parlait, une pâle lueur parut sur le sommet de la tour de l'Alhambra qui servait de phare. « Tout est perdu !» s'écria le renégat. « Ce feu va donner l'alarme à tous les gardes des passages. Il ne nous reste de ressources que dans la vitesse de nos coursiers. Marchons, n'attendons pas que l'alerte soit donnée de tous côtés. » Ils s'élancèrent à travers les défilés. Le bruit des pas de leurs chevaux était répété de rocher en rocher par les échos de la montagne d'Elvire. Tout en marchant, ils voyaient des feux s'allumer dans toutes les directions au signal de l'Alhambra. Des lumières paraissaient successivement sur toutes les atalayas. « En avant, en avant !» criait le renégat, avec 1000 imprécations. « Au pont, gagnons le pont avant que l'alarme y soit donnée !» Ils doublèrent le promontoire et arrivèrent en vue du fameux pont des Sapins qui traverse un torrent dont les eaux ont été souvent teintes du sang des chrétiens et des morts. À leur grande confusion, la tour du pont brillait de lumière qui se reflétait sur les casques des guerriers qui la couvraient. Le renégat se haussa sur ses étriers, regarda autour de lui. Puis il fit signe au chevalier de le suivre et s'éloigna du chemin en longeant quelque temps le bord de la rivière dans laquelle il entra. Les chevaliers recommandèrent aux deux princesses de se tenir fortement à eux et imitèrent Hussein. Ils furent entraînés pendant quelques moments par la force du courant. Les vagues s'élevaient en grondant autour d'eux. Les belles princesses serraient de leurs bras tremblants les chevaliers chrétiens, mais ne proféraient pas un mot de plainte. Enfin, ils atteignirent le bord opposé. Le renégat les conduisit par des chemins difficiles et non fréquentés jusqu'au cœur de la montagne. En un mot, ils eurent le bonheur d'arriver sains et saufs dans l'ancienne ville de Cordoue. On célébra leur retour par de grandes réjouissances, car ils appartenaient aux plus nobles familles du pays. Les belles princesses furent baptisées, ensuite mariées, et devinrent les plus heureuses des femmes. Dans notre empressement de rendre compte du succès de leur fuite, nous avons oublié de dire ce qui advint à la discrète Khadige. Elle se tenait accrochée comme un chat à Hussein Baba pendant qu'il traversait la Vega, criait à chaque pas et provoqua plus d'une fois les jurements du renégat à moustache. Mais quand ils furent prêts à entrer dans le torrent, la terreur de la duègne ne connut plus de bornes. « Ne me serrez pas si fort !» dit Hussein Baba. « Tenez bien mon ceinturon et ne craignez rien !» Elle prit à deux mains le ceinturon qui entourait le corps massif du renégat. Mais lorsqu'il s'arrêta sur le haut de la montagne, avec les chevaliers pour reprendre haleine, on ne vit plus la duègne. « Qu'est devenu Khadige ? » demandèrent les princesses très alarmées. « Allah le sait, » répondit le renégat. « Mon ceinturon s'est détaché, comme nous étions au milieu de la rivière, et Khadige a été emportée avec lui par le courant. La volonté d'Allah soit faite, mais c'était un beau ceinturon, tout brodé et d'un très grand prix. » On n'avait pas de temps à perdre en regrets. Toutefois, les princesses pleurèrent amèrement la perte de leur discrète conseillère. Cependant, cette excellente vieille ne perdit dans le torrent que la moitié des 9 vies qu'elle possédait, sans doute comme les chats. Un pêcheur, dont les filets étaient tendus près de là, ramena la bonne dame en les tirant. Et ne fut pas peu surpris de sa pêche merveilleuse. Que devint ensuite la discrète Khadige? C'est ce que l'histoire ne dit point, mais il est du moins certain qu'elle montra sa discrétion ordinaire, en évitant de se mettre à la portée de Mahomet le gaucher. Je n'ai su de même que fort peu de choses sur la conduite que tint ce prudent monarque lorsqu'il a pris la fuite de ses filles et la trahison de la plus fidèle des duègnes. C'était le premier exemple dans lequel il avait eu recours aux lumières d'autrui, et jamais il ne retomba depuis en semblable faute. Cependant, il garda soigneusement sa plus jeune fille, bien qu'elle eût montré peu de dispositions à s'échapper. On croit que la pauvre princesse se repentit plus d'une fois d'être restée sous la puissance de son père. Souvent, on la voyait appuyée sur les créneaux, regardant tristement les montagnes du côté de Cordoue. Ou bien on l'entendait chanter, en s'accompagnant de son luth, des romances dans lesquelles elle déplorait la perte de ses sœurs et de son amant et se plaignait de sa vie solitaire. Elle mourut jeune, fut, dit-on, enterrée dans un caveau au-dessous de la tour, et sa fin prématurée a donné lieu à plus d'un conte merveilleux.